I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Bon, tu peux ressembler à un de tes frères, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robin sur le réseau, il ressemble à rien, enfin, il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode de Fashion Gasoil, ex-chiffon, je vous invite à pousser les portes d'une grande maison française. Mon invitée est Sophie Delafontaine, directrice artistique de la marque Longchamp. Cette entreprise familiale, qui a été créée en 1948, est devenue le symbole du luxe à la française, et surtout, symbole luxe à la française et maison indépendante. Bonjour Sophie.
Bonjour Valérie.
Merci d'avoir accepté de nous ouvrir les portes de Longchamp. Donc avant de retracer l'histoire de cette jolie maison, pourriez-vous vous présenter?
Eh bien, donc je m'appelle Sophie Delafontaine. Je suis déjà la petite fille du créateur donc de la maison Longchamp. Donc c'est mon grand-père qui a créé cette maison en 1948 et aujourd'hui j'ai la chance de m'occuper de toute la création et de travailler avec mes deux frères Jean et Olivier. Et donc voilà, on est une entreprise 100% familiale, indépendante.
Alors, familiale, indépendante, vous pouvez rappeler la fonction de chacun de vos frères?
Alors, mon frère Jean donc, est notre président directeur général et mon frère Olivier habite à New York et il est directeur du retail aux États-Unis. Et j'ai même mes neveux maintenant qui nous ont rejoints, donc la quatrième génération avec Hector et Adrien.
C'est fantastique. Et ouais. 100% indépendante, c'est ça qui est, 100% indépendante, c'est ça qui est chouette. Ouais. Et peu de gens le savent.
Ben oui, parce qu'on est peut-être aussi assez discret, on va dire. Et puis, c'est une entreprise dans laquelle on est né, dans laquelle on a grandi.
On va en parler.
Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez fiers de porter ces valeurs. Et je suis très heureuse que la quatrième génération nous ait rejointes.
Alors, vous avez grandi avec Longchamp. Pouvez-vous nous raconter votre histoire et notamment celle de votre grand-père? Qu'est-ce qu'il tramait avec les Américains? J'adore les histoires comme ça.
Bah, mon grand-père, un peu comme vous, c'était un entrepreneur, quelqu'un qui était très curieux, très créatif et qui, du coup, en fait, il avait un bureau de tabac sur les grands boulevards.
C'est ça, c'est bien ça, c'était un bureau de tabac.
Voilà, donc il a commencé avec ma grand-mère, hein, puisque c'était une histoire de couple, hein, c'était déjà une histoire de famille. Donc, avec ma grand-mère, ils avaient un bureau de tabac sur les grands boulevards à Paris. Et puis, la guerre est arrivée. Il s'est retrouvé avec un grand stock de pipes sur les bras, en fait, parce que il y a eu pas mal de va-et-vient à ce moment-là dans Paris, etc. Et du coup, il a décidé de, pour optimiser son stock, il a décidé de commencer à gainer les pipes de cuir et donc de faire un peu des collections avec des cuirs différents, des cuirs exotiques.
Il voulait les rendre plus élégantes.
Surtout, au lieu d'avoir toutes des pipes en bois les mêmes, en fait, elles étaient gainées avec des couleurs de cuir différentes, avec plusieurs types de cuir. Et du coup, ça faisait toute une collection. Et donc, les amateurs qui fumaient la pipe, évidemment, s'achetaient une en croco noir, une en cuir marron, une en cuir végétal, etc. Et donc, ça faisait une petite collection. Et puis, il a développé tout un tas d'accessoires pour les fumeurs, les cendriers, les pots à tabac.
En cuir, toujours.
toujours en cuir, toujours gainée avec du cuir, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est beaucoup développé et il a commencé à faire... Donc, tout, c'était un univers qui était très masculin, tout cet univers un peu du fumeur et après de la petite maroquinerie pour hommes. Et puis, mon père, très jeune, est arrivé dans l'aventure avec lui.
Et là, il avait, je vous coupe, pardon, il avait toujours son bureau tabac ou là, il avait...
Toujours son bureau toujours. Tabac, oui, oui, toujours. Ça s'appelait Au Sultan.
Au Sultan.
Voilà, boulevard Poissonnière. Et du coup, nous, on habitait au-dessus du bureau de tabac. Mmh, il y avait le bureau de tabac au rez-de-chaussée, les bureaux au premier étage, mes grands-parents qui habitaient au troisième et nous, on habitait au cinquième étage. Donc, moi, je suis née au-dessus du bureau de tabac.
Donc, si je suis, c'est votre papa du coup, qui a aidé votre grand-père.
Voilà. Ensuite, mon papa donc, est rentré très jeune, hein, puisqu'il a commencé à travailler... Enfin, à 16 ans, mon grand-père a commencé à l'envoyer en voyage pour vendre les collections, justement, avec des produits dans sa valise. Et il a pris un bateau, il a traversé l'Atlantique, il est arrivé aux États-Unis, il a fait... des salons, etc., pour vendre les produits. Et puis, et c'est vrai que mes grands-parents avaient développé pas mal de clientèle américaine parce qu'il y avait les GI à Paris à cette époque-là, à l'après-guerre et au bureau de tabac. Et du coup, ils ont commencé à faire connaître, en fait, les produits. Et ensuite, ils ont eu la super idée de vendre... les produits étaient vendus dans les magasins de l'armée américaine, dans les bases américaines, donc partout dans le monde. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment le début de l'exportation. Enfin, c'était vraiment des aventures incroyables.
C'était en quelle année, à peu près ?
Bah, dans les années 50. Dans les années 50. Et puis, c'est vrai, quand mon père est arrivé, il a développé... donc, lui, il était très créatif. Il dessinait énormément. Il a toujours été très curieux, passionné. Et du coup, il a développé tous les sacs pour hommes et puis l'univers des bagages. Parce que comme il a commencé à voyager très jeune, il avait vraiment cette notion de la fonction, cette notion de vraiment de la réalité. Donc, il était vraiment toujours à chercher à tout optimiser, le côté pratique, à optimiser, à... et donc, c'est comme ça qu'il a imaginé aussi les premiers bagages en nylon, ce qui était vraiment hyper innovant parce que
c'était
le premier à faire des sacs en nylon. Et en fait, ce nylon, c'était génial parce que c'était un stock de toile qui restait de l'armée et qui servait de tapis de sol, en fait, pour les tentes. Et donc, il a réussi à récupérer un stock de toile qui restait. Et il s'est dit, mais en fait, cette toile, elle est géniale parce qu'elle est légère, elle est hyper résistante, elle n'est pas fragile, on peut la nettoyer. Enfin, c'est vraiment super quand on voyage. Et du coup, il a fait les premiers sacs en nylon comme ça.
C'est ce qui a fait l'ADN de Longchamp.
Et c'est ce qui a fait vraiment le début de notre best-seller, le pliage. C'était l'ancêtre du pliage.
Et le symbole de le cheval, je sais pas, comment on appelle ça, le symbole, le logo de la marque, quand est-ce qu'il est né et pourquoi ?
Alors pourquoi ? C'est une histoire, voilà. Donc mes grands-parents, mon papa s'appelait Casse-Grain, Casse-Grain, ça évoque qu'il casse le grain, le moulin, et donc en fait mon grand-père a décidé d'appeler la maison Longchamp parce que le plus vieux moulin de Paris, il est sur l'hippodrome de Longchamp. Et donc, c'est comme ça qu'il a pris le nom de Longchamp. Et ensuite, il a fait dessiner le logo de la marque par un artiste qui s'est inspiré d'une gravure ancienne qui, à l'époque, dessinait les chevaux avec une énergie incroyable parce qu'en fait, il allait...
Il saute un obstacle.
Voilà, mais en même temps, c'est une allure qui n'existe pas puisqu'il a les pattes avant avancées et également les pattes arrière, donc ce qui n'est pas une vraie allure d'un cheval. Donc lui, il est triple galop, le nôtre. Hein. Il est vraiment d'une fougue incroyable. Et donc, voilà, c'est ce qu'on aime beaucoup dans ce logo, c'est qu'il a à la fois, il représente à la fois toute la tradition, le savoir-faire, etc., de l'univers équestre, mais en même temps... Il est avec une fougue, une énergie qui représentent vraiment ce qu'est Longchamp.
Et à quelle époque votre père et grand-père ont décidé de créer une boutique Longchamp à Paris ?
Alors, la boutique, elle est arrivée beaucoup plus tard.
En fait,
ma grand-mère, après, a eu une boutique, mais qui était une boutique de maroquinerie générale qui vendait d'autres choses, qui était dans la galerie des Champs-Élysées, où j'adorais aller quand j'étais petite. Et puis, la vraie première boutique Longchamp, elle est arrivée beaucoup plus tard. C'est avec ma maman qui a rejoint l'aventure, qui a ouvert la première boutique Longchamp à Paris. Donc, c'était une toute petite boutique qui devait faire 20 mètres carrés, qui était rue Gros dans le 16e. Et qui ensuite, et ça, c'était dans les années 80 déjà.
À 80, d'accord.
Et puis ensuite, on est arrivé, elle a supplié mon papa d'avoir une super belle boutique. Et du coup, elle a eu la boutique rue Saint-Honoré. Et c'est comme ça qu'on a ensuite développé toutes les autres
boutiques.
J'aime
pas trop ce mot-là, empire, mais c'est là que l'empire Longchamp a commencé.
Bah c'est vrai que les années 80-90 ont été des années vraiment où le plein essor entre le côté international, l'ouverture à l'international très forte, et puis l'arrivée du pliage, l'arrivée du roseau, l'arrivée de sacs vraiment emblématiques, iconiques. Parce que c'est dans ces années-là qu'il a vraiment transformé la marque, qui était en fait une marque très masculine, en une marque féminine.
Le nombre de points de vente aujourd'hui, à peu près ?
Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau qui est vraiment extraordinaire. On a un peu plus de 1500 points de vente dans le monde.
C'est extraordinaire.
Et en fait, voilà, c'est aussi une très grande force parce qu'on est présent, par exemple, en province, on est présent dans beaucoup de petites villes à travers un réseau de multimarques, des gens fantastiques avec qui parfois on travaille depuis 30 ou 40 ans. Et qui représentent et qui sont vraiment des ambassadeurs de la marque dans leur ville. Et puis, on a aussi des boutiques Longchamp, des très beaux flagships un peu partout dans le monde. Et puis, les
flagship,
magasins.
Je traduis pour les gens qui ne seraient pas initiés, ce sont des maisons-mères. C'est ça.
Oui,
pas des maisons-mères, des grandes boutiques.
Il y a des très grandes boutiques qui voilà, peuvent aussi représenter tout l'univers de la marque, puisque depuis quelques années, on a développé le prêt-à-porter, etc. Et donc, dans ces boutiques, là, c'est vrai qu'on peut vraiment présenter l'intégralité de la collection. Voilà.
Alors vous, au départ, vous ne vouliez pas du tout rejoindre la famille. Hein.
Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ados qui ont envie de travailler avec leurs parents quand on leur propose comme ça. Donc, en fait, moi, au départ, voilà, j'avais envie de tracer ma route, comme on dit.
Vous êtes passée par d'autres jolies maisons
donc,
aussi.
Voilà. Et du coup, et moi, j'étais vraiment... Enfin, moi, j'aimais beaucoup la création. J'avais toujours vu mon père dessiner, me rapporter des protos. Mmh. J'avais la chance de pouvoir tester des sacs quand j'étais jeune. Donc, c'était super sympa. Mais du coup, moi, j'étais hyper... Enfin, moi, j'aimais beaucoup les produits, les vêtements pour enfants, etc. Et j'avais vraiment envie de travailler dans cet univers. Et du coup, j'ai eu la chance, après S-Mode, de rejoindre la maison Bonpoint et de travailler pendant plusieurs années avec Marie-France Cohen et Dominique Swildens, les fondatrices, et puis qui m'ont tout appris et vraiment avec qui j'ai réussi à créer des collections, à prendre tout le travail des détails, des couleurs, etc.
Alors, vous avez rejoint Longchamp en 95. L'appel a été plus fort.
Voilà.
Et depuis, donc, vous avez repris la direction artistique. Donc, ça se résume en quoi, la direction artistique ?
Bah, déjà, c'est la collection. Moi, mon cœur de métier, c'est de faire des produits. Donc, c'est de chaque saison, de créer des histoires, de raconter une histoire, de raconter une femme, de raconter, de décrypter des nouvelles envies. Donc, c'est évidemment des nouvelles formes, des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, des nouveaux détails, des nouveaux portées. Que ce soit dans les sacs, dans les vêtements, dans les chaussures, dans toute la collection. Donc, mon cœur de métier, voilà, c'est de faire la collection, de la penser, de la mettre au point, parce que j'ai la chance d'avoir une super équipe, puisque nous, on est, en dehors d'être une maison indépendante et familiale, on est aussi fabricants nous-mêmes, ce qui est une très grosse différence aussi et ce qui nous fait notre force, c'est qu'on a nos propres ateliers de fabrication. Et donc, en France, on a pratiquement 1000 personnes en production en France, dans nos ateliers, qui sont plutôt dans l'ouest de la France. On est dans le Maine-et-Loire, dans la Mayenne, dans la Vendée.
C'est important de le dire, ça aussi.
Dans l'Orne. Et donc, on a de très beaux ateliers avec des gens incroyables qui ont un savoir-faire fantastique. Après, on a des ateliers aussi ailleurs qu'en France.
Bien sûr.
Qui sont aussi des ateliers. Par exemple, on a un atelier à l'île Maurice depuis plus de presque 40 ans maintenant. Donc, c'est vraiment des gens aussi qui ont acquis le savoir-faire. Mais du coup, moi, j'ai la chance d'avoir cet atelier de tout mon atelier de modèle proto qui est à Segré dans le Maine-et-Loire. Et donc, on met au point la collection là-bas. Et puis, la direction artistique, c'est aussi évidemment travailler sur le produit et aussi sur la vie du produit ensuite.
Son comment évolution.
On va le mettre en scène, donc que ce soit les vitrines, la communication, les campagnes. Donc voilà, garder cette cohérence entre l'histoire qu'on a voulu raconter au début et comment elle va se raconter, que ce soit à travers les boutiques ou à travers les campagnes.
Alors pour moi, Longchamp, c'est pliage, roseau et le sac 90, c'est 80 ou 90 ?
1980. 1980,
voilà.
Alors... c'est plein d'autres choses encore.
Je peux
parler de cela, mais...
Et le fameux brioche et surtout le filet qui a été... je crois que ça a été... pour celles qui ne connaissaient pas Longchamp, ça a été l'occasion de vous faire...
C'est la révélation de l'été.
C'est une agréable surprise. Mais revenons juste au pliage. Donc, c'est votre père qui l'a créé, c'est ça ? À partir des...
Donc, en fait, il a commencé... Donc, avant le pliage, il avait fait, du coup, ses bagages en nylon. Et de là, en fait, il n'a jamais cessé d'optimiser tout ce qu'il faisait, etc. Et en fait, donc, il y avait des premiers sacs en nylon qui étaient déjà extrêmement légers, faciles, etc. Et après, il a créé le pliage, en fait, inspiré un petit peu par l'origami japonaise, parce qu'il a énormément voyagé, il était très curieux, il s'enrichissait à chaque fois aussi à travers ses voyages. Et en fait, du coup, il a vraiment inventé cette forme qui est faite d'un seul morceau de tissu. Et c'est vraiment par un jeu de pliage qu'on construit le volume, en fait. Et puis, il lui a donné cette signature qui est à la fois très pure, très graphique, mais en même temps avec une signature très forte, avec son rabat, ses poignets, son cuir, qui est aussi très emblématique. Il y a aussi toute une histoire que je pourrais vous raconter un jour, mais qui est très particulière.
Bah, il faut écrire un livre.
Et du coup, donc en fait, ce pliage, il est né en 1993.
C'est arrivé pas très loin derrière.
Et voilà. Et ce qui était très fort aussi quand il a créé ce produit, c'est que finalement, c'est plus qu'un sac parce que c'est un art de vivre, moi, je pense. Il l'a tout de suite décliné dans plusieurs tailles,
plusieurs matières.
Pour coller aux fonctions. Entre si on a envie de sortir ou si on veut aller au sport, on prend la grande taille ou en voyage, etc.
Pour moi, c'est plusieurs le sac couleurs. De week-end, c'est le sac 48 heures.
Ouais.
C'est la symbolique.
Mais c'est aussi le sac de plein de femmes dans leur quotidien.
Et des étudiantes
pour mettre
aussi.
Des étudiantes, de la femme qui travaille, qui veut mettre son ordi, la jeune fille qui va au lycée, l'homme qui va au sport. Enfin bref, il y a plein de... Il y a plein de possibilités. Et puis, il a décliné aussi dans plein de couleurs. Il y a aussi une certaine idée de joie de vivre, d'optimisme, de fraîcheur, qui est, dès le départ, qui était présente dans cette histoire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous caractérise bien, parce que le pliage, c'est aussi les couleurs. On peut chacun avoir son pliage, en fait.
C'est un sac intergénérationnel, on peut le dire.
Intergénérationnel. Ce qui est très fort, c'est qu'il est universel. Il s'adresse à tout le monde. Je dirais qu'il est aussi... ce qui est assez rare, je trouve, il est aussi toute classe sociale, tout pays, tout âge. Il s'adresse à des gens qui sont assez... qui achètent pour eux en réalité.
Quel est le modèle que vous avez le plus vendu ?
Le pliage.
C'est le pliage,
oui.
Partout ?
Oui.
Et en fonction des pays, est-ce qu'il y a certains modèles qui plaisent plus en Asie, certains plus aux États-Unis ?
Alors, Oui, il y a quelques petites spécificités, je vais dire, qui se gomment un petit peu avec le temps. Enfin, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des très grosses spécificités. C'est-à-dire que franchement, les Japonaises, elles achetaient toujours des tout petits sacs, avec des petites poignées portées à la main. Et les Américaines, elles étaient plutôt sur des grands shoppings longs à l'épaule, etc. Aujourd'hui, on va dire que la mode, elle est quand même plus... Il y a tellement de modes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une mode en fait. Moi, je travaille pour des femmes qui ont une certaine indépendance d'esprit, qui ont une certaine j'ai envie qu'elles se sentent bien, que ça leur corresponde à elles. Et donc finalement, on trouve aujourd'hui des Japonaises qui achètent des grands sacs et des Américaines qui achètent des petits sacs, hein. Donc en fait, les choses ont quand même beaucoup évolué.
Alors, juste quelques mots sur le filet.
Alors, le filet. Donc,
ça a été quand même un truc extraordinaire.
Oui, voilà. Donc, le filet, en réalité, c'est vrai que le pliage, il a cette notion de fonction.
Oui, parce que c'est le pliage filet, c'est ça.
Voilà. Et le pliage, il a cette notion de fonction. Et il a cette notion d'être votre compagnon de tous les jours, le sac qui va vous accompagner, que vous pouvez emmener partout, etc. Et c'est vrai que en faisant la collection de l'été... c'est vrai que ce filet, qui est également un produit iconique français, qui est également un produit d'une maison française, familiale, indépendante, qui a aussi un savoir-faire absolument incroyable.
Filt,
donc la maison Filt. En fait, c'est là qu'on s'est dit le filet... est aussi le vrai filet de la maison Filt, c'est aussi un sac fonctionnel, etc. Et en fait, d'allier notre savoir-faire de maroquinier et notre identité de ce cuir, de ces poignets, etc., sur ce filet, et en fait de croiser deux icônes du sac français, deux maisons qui sont deux maisons du patrimoine vivant, deux maisons françaises, familiales, etc. C'est assez rare, finalement, que finalement deux produits qui pourraient être en compétition, parce que c'était un sac, on est aussi un sac, finalement se rencontrent et deviennent comme ça un produit. Et donc, c'est ça qui m'a amusée dans cette histoire. Et j'aimais apporter la fraîcheur des couleurs, de la légèreté du filet, etc., et de le twister avec notre cuir.
Et le brioche, c'est le dernier né ?
Alors, le brioche, oui, c'est le dernier né. Donc là, c'est vraiment le savoir-faire de maroquinier qui parle, le travail du cuir, tout ce côté
de
ce matelassage.
On a envie de prendre dans les bras le sac brioche.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé brioche. C'est parce que pour moi, il a un côté moelleux, joufflu, gourmand. J'avais envie... en fait, je pense que... moi, j'ai envie que les femmes qui achètent un sac, elles se fassent plaisir. C'est un peu comme quand on va manger une brioche. L'idée, c'est vraiment cette notion du plaisir. C'est cette notion de... Le cuir est absolument fantastique dans ce sac. C'est un agneau qui est d'une sensualité incroyable. Donc, c'est vraiment un sac qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de porter, qu'on a envie d'ouvrir, de fermer. Même le fermoir, le fait de l'avoir fait avec son petit rembourrage, un peu comme un petit coussin. Enfin, il y a un côté vraiment...
On dit que c'est le Jean-Paul Kaufmann, le sociologue, qui dit que toutes les femmes transportent leur personnalité dans leur sac. Donc, quelque part, c'est un moyen de se camoufler.
Oui, il y a un côté peut-être réconfortant, un peu de plaisir, de réconfort. Et puis, il y a aussi le fait que je pense qu'il a... Il peut vous accompagner dans la journée et on peut le porter de plein de façons différentes. Il y a un côté... moi, j'aime le fait que le sac ne doit pas être un poids. C'est-à-dire, après, on ne doit plus le sentir, on doit vivre avec. C'est à lui de vous accompagner, c'est à lui de se plier à vos besoins dans la ville, dans la vie, dans la journée. Donc, voilà.
Alors, vous avez aussi lancé une gamme de prêt-à-porter de chaussures. En quelle année et pourquoi ?
Alors...
En quelle année, c'est donc, pas...
donc, nous, on a commencé le prêt-à-porter en 2006. Donc, c'était... je sais très précisément. C'était en 2006. C'était quand on a ouvert notre boutique à Soho, à New York. C'était la première fois qu'on avait une boutique aussi grande. C'est une boutique qui est immense, très grande. Et on n'avait jamais eu un tel volume. Et avec mon frère Jean, on s'est dit que ça serait bien d'avoir quelques mannequins pour un petit peu donner vie au sac dans la boutique. Parce que bon, bah, c'est vrai que jusque-là, on n'avait que des sacs à main. Et donc, bah, des sacs à main, c'est souvent, c'est posé sur une étagère, etc. Et du coup, on avait envie qu'il y ait un peu plus de mouvement et qu'il y ait une autre énergie dans la boutique et de donner un peu vie à la femme qui allait porter le sac. Et donc, j'ai commencé en fait à faire une collection vraiment très, très capsule, puisque c'était simplement, il y avait un blouson, un manteau. Enfin, c'était vraiment très, très, une toute petite collection, mais c'était plus pour habiller deux, trois mannequins dans la boutique et pouvoir présenter les sacs sur des mannequins. Et puis, bon, bah, là, le problème, c'est que moi, je suis une fille et que quand je commence, bah, j'arrive pas à m'arrêter. Que du coup, après un manteau, un blouson, bah, on fait une robe, un pantalon. Et puis, au fur et à mesure, chaque saison, je grappillais quelques modèles.
Et si on rajoutait des chaussures.
Et c'est seulement en 2010, quand même, j'ai quand même tenu 4 ans, seulement en 2010 que je lui ai dit, non mais attends, là, maintenant, on fait des vêtements, on a des mannequins, etc., mais ils sont pieds nus. C'est pas possible, là, il faut qu'on fasse des chaussures. Et donc là, pareil, j'ai commencé tout doucement, parce que nous, on fait les choses toujours step by step. C'est important pour nous, à chaque fois, quand on est comme ça aussi sur des produits qui sont nouveaux, c'est d'acquérir le savoir-faire, de comprendre ce que nous, on peut apporter, parce qu'en fait, personne m'attend pour faire du prêt-à-porter. Donc l'idée, c'était aussi de trouver ce qu'on allait vouloir raconter, comment on allait le faire, ce qu'on allait dire avec ça. Et du coup, pareil pour les souliers, j'ai commencé avec une paire de ballerines l'été et une paire de bottes l'hiver. Puis au fur et à mesure, la collection s'est développée.
Quelles sont vos sources d'inspiration, notamment pour les vêtements?
Franchement, les sources d'inspiration, c'est la vie, moi, je vais dire. Parce qu'en fait, il y a tout dans la vie. Les gens que je rencontre, ma famille, même les gens qui travaillent avec moi, il y a les voyages, il y a l'architecture, il y a le cinéma, il y a l'art, il y a le théâtre, il y a... Enfin, moi, tout est très inspirant. C'est vrai que l'art m'inspire beaucoup parce que on a été dans la famille très nourrie, mes grands-parents aimaient beaucoup les artistes, ils avaient vraiment cet univers était très présent et pour moi c'est toujours une source d'inspiration pour les couleurs, pour les gammes, pour les matières, les effets, etc. Après pour les coupes, bah, c'est vrai que c'est les femmes qui m'entourent, c'est la vie, c'est voilà.
Donc la femme Longchamp, c'est qui la femme Longchamp?
Bah, c'est nous toutes. C'est J'aime nous beaucoup. Toutes parce que pour moi, je pense que ce qui est important, en fait, c'est surtout qu'on n'est pas une maison, je ne donne pas de diktat, il n'y a pas de total look. L'idée, c'est plutôt de leur offrir des pièces qu'elles vont pouvoir s'approprier, mélanger, twister, adapter à leur façon de vivre et à leur look, à leur personnalité. Donc voilà, moi, la femme Longchamp, c'est une femme qui aime se faire plaisir pour elle-même d'abord.
Et quelle élégance selon Longchamp? Je n'arrive plus à parler. L'élégance selon Longchamp?
Pour moi, c'est une femme élégante, c'est une femme qui a confiance en elle, qui se sent bien, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa tête. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai toujours dit, par exemple, en faisant des souliers, que je préfère descendre les talons de 2 cm, mais qu'on soit jolie quand on marche avec, que de les faire 2 cm plus haut, mais qu'on ne sache pas marcher avec. Et donc, pour moi, en fait, c'est vraiment ça. Je pense que l'élégance, c'est de se sentir bien. Voilà.
Et si on relie l'élégance au cool, est-ce qu'on peut être élégante et cool à la fois?
Ah bah complètement. Bah, j'espère même que... Parce qu'en fait, je pense que ça se rejoint complètement... Dans le sens où quand on est, si je dis que quand on est élégante, c'est qu'on se sent bien, c'est qu'on est cool. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tendu parce qu'il est stressé, parce que si vous mettez quelque chose dans lequel vous êtes mal, vous sentez mal, ça vous bride, ça vous serre, bah, vous n'êtes pas détendu, vous n'êtes pas cool et bah, vous n'êtes pas élégante. Donc en fait, je pense que c'est vraiment ça la notion, c'est d'être... Ça ne veut pas dire être forcément décontracté, dans le sens être, c'est pas parce qu'on est en jogging qu'on est plus cool qu'une femme qui porte une robe. Mmh. On peut être cool dans une robe et élégante, je pense.
Merci infiniment, Sophie.
Mais je vous remercie, Valérie, c'était un plaisir.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.